Vous avez parlé la dernière fois du droit naturel qu'a l'homme à vivre, justice. Dans quelle mesure le droit disparaît pour l'ennemi en cas de guerre? Pourriez-vous répondre au mouvement pacifiste, s'il vous plaît? Nous sommes tous pour la béatitude des pacifiques. Les faiseurs de paix, faut jamais l'oublier. Alors, je crois que dans ce domaine-là, c'est toujours des petites confusions qui se font. On va essayer de comprendre ça. C'est très difficile, hein, c'est difficile de bien préciser sans tomber de confusion. Alors, avant, il y a une autre petite question. Peut-on dire que la vertu de justice, hein, je vais essayer de faire, parce que c'est une analogie. Peut-on dire que la vertu et à l'acte politique ce que la vertu prudente est à l'acte humain. Avec cette nuance, la vertu de justice est à l'acte politique ce que la vertu de prudence est à l'acte humain. Une petite analogie. Avec cette nuance, au point de vue éthique, que l'acte prudent est directement ordonné à la fin, tandis que l'acte juste est en vue d'une plus grande efficience. Non. L'acte de justice n'est pas en vue d'une plus grande efficience. L'acte juste est de respecter les droits. Alors quelquefois, l'efficience, elle n'est pas pour moi du tout. Vous comprenez, dans la justice distributive, hein, dans la justice distributive, vous employez un père de famille qui a 8 enfants. Vous devez faire point de justice distributive. Vous devez faire plus d'attention à lui qu'à un père de 2 enfants. Ce n'est pas les sciences qui commandent la justice. C'est l'art. C'est l'art. Hein? C'est la technique, l'efficience. Et la justice, la vertu de justice, on a le droit de l'ordre. Et la justice distributive existe pour un chef, pour un patron qui prend des ouvriers, des pères de famille ou des mères de famille, doit tenir compte de ses responsabilités. Il tient compte de ça, il ne doit pas payer, normalement, il ne devrait pas payer de la même façon. Un père de 8 enfants ou un père de 2 enfants. En justice distributive. Très curieux ces choses-là. Oh, aujourd'hui, hein, qu'est-ce qui fait ça? Et en fond, normalement, c'est ça la justice distributive. Donc, la justice distributive n'est pas de l'efficacité. Que la justice commutative est un lien, quelque chose qui semble de l'efficience, parce que c'est donnant-donnant. Oui, mais c'est quand même toujours le droit. Et le droit, c'est pas l'efficience. Très difficile à définir ce que c'est que le droit. Le jus, le droit. Vous avez le droit. Vous avez le droit d'être pauvre. C'est quelque chose d'extraordinaire. On a le droit de tout abandonner pour suivre Jésus. Vous n'avez pas le droit d'attenter à votre vie pour donner un témoignage que vous méprisez votre vie, bien que votre vie ne sert à rien du tout. Il y a un tournage d'humilité, je ne suis rien du tout, le dernier des individus, et donc je me pends. Il y a des limites au droit naturel. Alors, Voilà, c'est pas l'efficience. Hein. Bon. D'autre part, le parallélisme, je veux bien, mais voyez, la vertu de prudence ne s'oppose en rien à la vertu de justice, puisque la vertu de prudence, pour pouvoir exercer la vertu de prudence, il faut la vertu. Pour exercer la vertu de justice, il faut la vertu de prudence. Donc elle est là. Elle n'est pas à côté. Mais c'est la prudence d'un acte politique différent de la prudence d'un acte humain. Donc c'est la prudence par rapport à l'acte politique et la prudence par rapport à l'acte humain qu'il faut opposer. Et c'est la vertu de justice par rapport à l'aspect politique et la vertu de justice par rapport à l'homme. Oui. C'est ça plus que je ferai l'opposition. Parce que de fait, c'est pas au même plan. La vertu de prudence est une vertu qui doit organiser tous les moyens en vue de la fin. La vertu de justice regarde le droit. Alors, il y a un droit politique, il y a un droit personnel. Un droit politique, vous comprenez ce que ça veut dire. Le droit politique, c'est le fait qu'on appartient à une communauté. Du fait qu'on appartient à une communauté, on a un droit politique. N'importe quelle communauté que ça importe. On est seul, en tant que seul, il n'y a pas de droit politique. C'est un droit individuel, il y a un droit personnel. Alors c'est pour ça que l'analogie ne joue pas, vous voyez. Moi je ne ferai pas une analogie. Je crois que c'est quasi impossible, il faudrait rectifier tout pour pouvoir tout simplement voir le point de vue de l'acte politique. Il y a une vertu de prudence au niveau politique, il y a une vertu de justice au niveau politique. L'acte humain comme tel, il y a une vertu de prudence au niveau de l'acte humain et une vertu de justice au niveau de l'acte humain. Tout simplement. Et je ne mettrai pas l'efficience parce que tout, au point de vue moral, est ordonné à la fin. Et la fin comme telle n'est pas l'efficience. C'est les rapports entre l'agir et le facere qui est de l'ordre où alors on peut jouer la question des rapports de l'efficience. Souvenez ce que je vous avais dit une fois. C'est une parole que m'avait dite PDG, en gros, qui me disait cette chose. J'ai interrogé un théologien pour lui demander si, du fait même que c'est efficace, c'est moral. Et ce théologien, je ne sais pas lequel, il dit c'est le Jésus tout dominicain, ce théologien avait répondu, du fait même que c'est efficace, c'est moral. Alors lui, en tant que PDG, sentait chrétien, profondément chrétien, sentait que ce n'était pas normal. Alors il m'a posé la question, il ne m'avait pas dit ça avant, hein. Il m'avait simplement posé, mon père, j'ai une question, il y avait des amis communs, je sais, il m'avait demandé de venir le voir, en me disant, c'est une chose importante, je voudrais quand même... Alors, il m'a posé la question, est-ce que pour vous, du fait même que c'est efficace, c'est moral? Alors, moi, j'ai éclaté de rire. Je dis, mais c'est deux choses totalement différentes. Alors, il me dit, ah, oui, je suis d'accord avec vous, mais un théologien m'avait dit ça. Alors, vous comprenez, quand on dirige une usine, ce que ça peut faire. Si d'être uniquement l'efficacité compte, non, c'est deux choses différentes. Alors, qu'il y ait des conflits entre l'efficacité et le point de vue moral, c'est bien évident. Il y en a constamment entre les deux. Il y a des périodes où c'est très très divisible parce qu'il s'agit de la survie de l'industrie. Et qu'on sent très bien qu'à ce moment-là, ben oui, il faut demander à tout le monde un effort pour ne pas dégringoler. Alors c'est la survie. Alors à ce moment-là, c'est une chose qui fait que moralement, on peut demander un effort, mais on sait très bien qu'on demande un effort. Alors c'est très important de comprendre qu'il peut y avoir des conflits entre l'agir et le facere. Le facere, c'est l'efficacité. Ceci relève de la philosophie du travail. C'est très important parce que ce sont des questions auxquelles on se trouve tout le temps engagé. Dans notre monde d'aujourd'hui. Et c'est des questions auxquelles, de fait, des gens qui commencent à réfléchir, parce que quand ils sont en état de crise, ils commencent à réfléchir pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et alors ils sont obligés de se mettre à réfléchir là-dessus. Et ils voient qu'en effet, on avait beaucoup trop regardé uniquement l'efficacité. Et on n'avait pas assez regardé le point de vue moral. Si on avait regardé beaucoup plus le point de vue moral, le marxisme n'aurait pas eu de prise. Ça, c'est évident. C'est qu'on a regardé avant tout l'efficacité. Et on voit encore ça dans certaines usines. Il y a un très gros progrès qui se fait, c'est évident. Mais on voit encore, il faut bien voir, le travail en série. Hein. Quand vous voyez le travail en série, c'est l'efficacité, le point de vue moral. Hein. Vous abrutissez les gens. Alors quand on abrutit les gens, est-ce qu'on a le droit de demander un travail qui abrutit ? On doit essayer de tout faire pour compenser, pour que le travail demeure un travail humain. Et le travail humain, le travail doit rester humain. Et quand il reste humain, c'est justement le point de vue de l'agir à l'intérieur de l'efficacité. Parce que le facere, le travail demande d'être efficace. Je n'ai pas le droit de faire un travail non efficace. Quand vous faites un travail non efficace, regardez, hein, c'est parce que vous avez une machine qui marche mal, vous avez un outil qui marche mal, et c'est pour ça que tout ce que vous faites, vous perdez du temps, et il n'y a rien du tout. Vous n'avez pas le droit de perdre du temps. Vous n'avez pas le droit de perdre du temps. Et donc vous devez essayer de voir d'où ça vient. Il y a une non-efficacité. Ça peut provenir de vous, ça peut provenir de l'outil. Alors on doit corriger cela. Un travail demande d'être efficace. Mais il ne faut pas que l'efficacité supprime le point de vue moral. Le point de vue moral, c'est la responsabilité qu'on a à l'égard des hommes. On ne se sert pas des hommes comme on se sert d'un outil. Attention, on se sert d'un outil pour l'efficacité. Vous avez le droit, si le bit ne marche pas, d'en prendre un autre. Hein, si vous en avez un autre tout de suite, vous avez le droit de le licencier. Hein, tandis que vous n'avez pas le droit de licencier n'importe comment un homme. Je dis n'importe comment, vous n'avez pas le droit. De temps en temps, vous êtes obligé de le faire. Mais vous devez avertir avant, vous devez faire tout ce que vous pouvez. Et quand le point de vue de l'agir, la responsabilité humaine joue énormément, celui qui licencie essaie de replacer tous ceux qu'il a licenciés. Je connais certaines usines où c'est arrivé. Tous ceux qu'on a licenciés, on a eu le soin de trouver possibilité de trouver à droite ou à gauche pour qu'ils retrouvent tout de suite du travail. Ça, c'est humain. Parce que quand vous avez travaillé pendant 10 ans dans une usine, il y a quand même des liens. Et vous n'avez pas le droit de vous licencier. Vous êtes quelquefois obligé, ça c'est évident, vous êtes quelquefois obligé. Parce qu'il y a des impératifs économiques qui sont tels que si on ne le fait pas, c'est toute l'usine qui disparaîtra. Alors si c'est toute l'usine qui disparaît, c'est tout le monde dans la même faillite, hein, c'est pire. Donc vous êtes obligé pour le bien commun de licencier. Et vous devez l'expliquer, vous devez le faire comprendre, et vous devez faire tout ce que vous pouvez pour que ceux qui sont licenciés... Là, c'est les liens entre l'agir et le facturer. Ça, c'est très important. Ça. C'est tout le point de vue économique, si vous voulez, mais vu de façon humaine. Parce que l'économie comme telle, hein, regarde les impératifs économiques sans regarder l'homme. Et donc, le point de vue de la productivité, le point de vue de l'efficacité, rien d'autre. C'est pour ça que je n'ai pas le droit d'avoir uniquement le point de vue économique et j'applique le point de vue économique. C'est pas humain. C'est pas humain. Le point de vue humain, il y a d'autres facteurs qui interviennent. Ce sont des hommes que j'utilise. Et on ne vend pas son travail. On coopère avec son travail, avec un autre. On ne le vend pas. Alors, bon, alors ça, c'est pour vous montrer ceci. Alors, je reviens un instant. Une question m'a été posée aussi. On a parlé de justice sociale et je n'en ai pas parlé. Or, l'Église parle de justice sociale. Alors, est-ce que, dans la perspective où je me place maintenant, c'est-à-dire d'essayer de comprendre l'éthique humaine au niveau des rapports de l'homme avec l'homme, à ce moment-là, je n'ai pas à parler de justice sociale. Pourquoi ? parce que la justice sociale n'est pas à ce niveau. J'ai étudié longtemps le problème, puisque quand je devais faire cette petite conversation avec les secrétaires des syndicats chrétiens en Suisse, catholiques et protestants, vous comprenez qu'il fallait essayer de bien comprendre ce que c'est que la justice sociale de l'Église. C'est une chose que j'ai jamais vue très clairement, intellectuellement. J'ai demandé à un juriste de le faire lui-même l'étude, parce que je voulais voir clair. Alors, en étudiant cette question de la justice sociale, je ne dis pas que ça n'existe pas, vous comprenez bien. Je dis que je n'ai pas vu très clair, parce que c'est un concept complexe. Il faut justement comprendre qu'il est complexe. Le mot de justice sociale est intervenu dans l'histoire de la pensée avec Rosmini. Ça ne vous dit rien du tout, Rosmini. Hein? Milan. Milan. Et rosminien. Rosmini est un ontologisme. C'est un très saint homme. Et c'est un ontologisme. C'est très, très connu. Rosmini dit que on a l'idée innée de l'être au berceau. C'est pour ça que Maritain dit que l'enfant a une aptitude extraordinaire à la métaphysique. Vous voyez ? Parce que Rosmini dit qu'il y a une idée innée, là, une seule idée innée. Vous n'avez qu'une seule idée innée, l'idée d'être. Et c'est faux. Vous n'avez même pas l'idée d'être comme innée. Mais Rosmini dit ça, c'est l'ontologie de Rosmini. Alors, quand je dis l'ontologisme, vous voyez bien ce que c'est une espèce d'immanentisme qui fait que l'homme se définit par Dieu. C'est un très saint homme. C'est la dévotion, vous voyez, c'est la dévotion à l'intérieur de la philosophie. Alors, c'est très très bien la dévotion, ça sert à tout, sauf à la philosophie. Ça sert aux philosophes, mais pas à la philosophie. Alors, ça fait quelquefois des confusions. Ça fait des confusions avec Rosmini. Rosmini parle de justice sociale. Et à partir de Rosmini, les papes ont parlé de justice sociale. Alors, quand vous étudiez ce que c'est que la justice sociale, ce n'est pas une partie de la justice. Ce que j'ai essayé de faire avec vous, c'est les éléments de la justice. Et les éléments de la justice, c'est justice commutative, justice distributive, justice légale. Il n'y en a pas d'autre. Cherchez bien, il n'y en a pas d'autre. N'ajoutez pas justice sociale. La justice sociale, c'est pas ça du tout. La justice sociale, c'est d'abord par rapport aux chrétiens. C'est l'exigence de la charité fraternelle qui vient transformer l'exercice de la justice. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de tout à fait différent. Et ça ne peut pas se comprendre autrement. Quand vous lisez les textes des papes, vous voyez bien que fait toujours intervenir la charité. Donc fait toujours intervenir le point de vue de l'homme, qui déjà est présent dans le point de vue de la justice, mais à cause de la charité, c'est bien évident que l'exercice chrétien de la justice modifie l'exercice de la justice. Un chrétien n'agit pas de la même manière qu'un païen. Jésus nous dit tout le temps, les païens font la même chose. Et donc le chrétien doit avoir quelque chose de particulier. Alors pour caractériser l'exigence particulière de l'exercice de la justice du chrétien, l'Église a inventé, vous dites exactement, elle a pris la Rosmini, je ne sais pas si c'est un emprunt, ou si de fait il y a eu. Ça arrive quelquefois, vous savez, il y a des moments comme ça où des mots jaillissent aux deux extrémités du monde et dans des perspectives tout à fait différentes. Ça peut très bien arriver parce que c'était un problème complexe, ce problème que je viens de vous dire, par exemple, du licencié des ouvriers. C'est un problème de justice. C'est très difficile à le traiter au point de vue de la pure prudence humaine. Et prudence humaine, de l'exercice de la justice. Et alors, on voit très bien que lorsqu'il s'agit d'une prudence surnaturalisée par la foi, et quand il s'agit d'une prudence au service de la charité fraternelle, il y a quelque chose dans l'exercice de la justice qui n'est pas la même chose. Et quand vous avez des contrôleurs dans le train, tu vois un religieux, ça m'est arrivé, c'est très, très curieux comme ça. le contrôleur dans le train, il vous dit, il faut bien vous contrôler comme les autres, surtout. Il vous prend à part. Père, c'est gênant. Vous n'êtes pas, il y a quelque chose qui manque là. Je ne veux pas vous faire payer une amende. Alors, on va s'arranger. Et une fois, je ne sais plus trop la combine qu'il a eue, mais c'était extraordinaire. Il m'a fait sortir du train. J'étais donc sur le quai. Et là, il m'a dit, maintenant, je peux agir. Vous comprenez ? Quand je suis dans le train, je suis contrôleur. Alors, je n'ai rien vu. J'ai rien vu quand j'étais contrôleur. Il y a des points de vue de la justice et des points de vue de la prudence. Oui. Il y avait la prudence, c'était un homme sûrement d'un bon chrétien, qui le curé, on ne va pas lui faire payer, c'est tout à fait inutile, c'est plus trop une question de supplément de train, de trucs comme ça. Alors, il m'a dit, je ne vois pas, je ne regarde rien, mais je poinçonnerai sur le quai. Alors, sur le quai, en effet, il a fait ça. Ça m'a beaucoup montré, c'était la question de la justice. En tant que contrôleur, il doit être dans la justice. En tant qu'homme, il dit, mais non, on peut quand même faire un petit s'est passé, un petit droit particulier. Alors, la justice sociale, je reviens à la justice sociale, c'est quelque chose comme ça, comprenez bien. C'est d'essayer de comprendre que le point de vue de la charité modifie mon regard sur les hommes. Et me donne ça. Alors, c'est avant tout ça. Je ne dis pas que ce n'est que cela. C'est avant tout, ça ne peut se comprendre qu'à partir de la charité, que dans la lumière de la charité. C'est en premier lieu pour les chrétiens. Mais la justice sociale veut aller plus loin et elle veut rappeler alors les exigences de la prudence. C'est pour ça que la justice sociale ne peut pas se comprendre toute seule. C'est la prudence liée à la justice qui modifie l'exercice de la justice et qui fait regarder l'homme. Dans la justice sociale, c'est regarder l'homme. Alors ça se fait ou par la prudence ou par la charité. Ou les bons sens. Deux choses peuvent arriver. Si vous êtes chrétien, c'est la charité qui transforme votre prudence et donne à votre prudence quelque chose de plus. Et donc l'exercice de la justice va être différent. Si vous n'êtes pas chrétien, il n'y aura que la prudence. Et la justice sociale s'adresse en premier lieu aux chrétiens pour leur rappeler comment la charité modifie les rapports sociaux, les rapports humains. Et si ça ne s'adresse pas aux chrétiens, c'est le point de vue de la prudence. Donc, il ne faut pas chercher une nouvelle justice dans la justice sociale. Mais il faut regarder un exercice nouveau de la justice. Ce n'est pas la même chose. Et alors, je comprends très bien, étant né ce concept, étant né en terre de l'ontologisme, dans l'ontologisme, l'exercice et la spécification, comment ce terme est venu pour exprimer qu'il y avait quelque chose de nouveau dans l'exercice de la charité par rapport à la prudence et à la justice. Ceci, c'est pour simplement vous faire comprendre. On y reviendra à la question de la justice sociale à propos de l'éthique chrétienne. Et la justice sociale, du reste, c'est au niveau politique. C'est pas au niveau personnel, c'est au niveau politique. Et ici, nous sommes dans les éléments de la justice, nous sommes dans les éléments d'une éthique personnelle, il ne faut pas l'oublier. Bon. Alors, ceci, c'est pour simplement pour enlever vos inquiétudes. Comprenons que lorsque nous parlons de la justice, nous voyons comment la volonté qui est naturellement portée vers le bien, la volonté a besoin d'une rectification de la justice pour respecter le droit. C'est respecter le droit. L'appétit volontaire n'a pas besoin d'habitus pour le bien et le bien spirituel. C'est pour ça que je n'ai pas besoin d'un habitus particulier pour l'amitié. pas une vertu particulière pour l'amitié. Non. C'est au-delà de la vertu, et ça revient à quelque chose de fondamental de l'appétit naturel. J'aime naturellement les hommes. J'aime naturellement tous les hommes. Et il n'y a pas de vertu pour aimer tous les hommes. Il n'y a pas une vertu de philanthropie. J'aime tous les hommes. C'est naturel d'aimer tous les hommes. Mais respecter les droits de tous les hommes, ou alors là, il faut une fameuse vertu. Et c'est la justice. Alors, cette vertu de justice, elle règle tous les droits à l'égard des hommes pour qu'on respecte pleinement et totalement leurs droits. Alors, ce qu'il faut, c'est réfléchir sur ce que représente le droit de quelqu'un. C'est lié à la personne. Il n'y a plus de personne qui a des droits. C'est lié à la personne. C'est le problème de la personne. Alors, c'est le problème de la personne qui est capable, qui doit atteindre sa fin, et que pour atteindre sa fin, il lui faut nécessairement des moyens. Et alors, parce qu'elle est naturellement liée à la fin, et qu'il lui faut nécessairement des moyens pour atteindre sa fin, elle a des droits à l'égard de ses moyens. Je crois que c'est cela, en définitive, ce que c'est qu'un droit. Parce que s'il n'y avait pas de finalité, c'est pour ça que ça n'existe que pour la personne, s'il n'y avait pas de finalité, il n'y avait pas de droit. Le droit naît à partir de la finalité. Ce n'est pas la finalité, mais ça naît à partir de la finalité. Cette finalité qui s'impose à moi et qui fait que je m'oriente normalement vers cette fin, il faut des moyens qui me permettent d'atteindre cette fin. Et vis-à-vis de ces moyens naturels qui me permettent d'atteindre cette fin, j'ai des droits. C'est pour ça que j'ai un droit à la nourriture. J'ai un droit à la nourriture. C'est ce que dit saint Thomas, si par exemple un jour vous êtes affamé, vous êtes sur la route, vous êtes perdu de chemin, vous ne savez plus du tout, vous êtes vraiment mourant, vous avez le droit, adroitement, si on ne veut pas vous donner, de voler un pain chez vos voisins. Pour pouvoir manger. Si vous êtes vraiment dans un état extrême, vous avez le droit à l'amour. Attention, hein, parce que si vous êtes bien mangé le matin déjà, alors ça c'est autre chose. Attendez vraiment d'être affamé. Alors à ce moment-là, vous avez un droit à l'aliment. C'est trop vite, non? Ça explique, vous voyez, le miracle de la multiplication des pains. C'est pas fait gratuitement. Ils avaient un droit. Et Jésus a répondu à ce droit. Et je crois que c'est vrai. Ça, c'est vraiment le droit que nous avons. On a un droit à l'aliment en vue de la fin que nous poursuivons. Nous avons un droit à l'amitié. Il y a un droit à l'amitié. L'homme a un droit de se marier. On n'a pas le droit d'empêcher ça. Même si on juge qu'étant donné sa santé, c'est vraiment désastreux de le faire. On peut lui donner conseil, on n'a pas le droit de supprimer ça. Pas le droit de massacrer son corps en disant que pour une raison ou pour une autre, le mutiler. On n'a pas le droit. Parce qu'on doit garder intégralement son corps en vue de la finalité. Mais vous avez le droit, si un de vos membres est malade, de faire l'opération. Ce n'est plus une mutilation. On vous coupe le bras quand même, mais ce n'est pas une mutilation. C'est une opération qui vous enlève le bras de bras. Tandis que vous n'avez pas le droit de le mutiler, de le supprimer. Vous voyez, c'est très subtil ces choses-là. Et le droit se prend à partir du tout. Et à partir de la finalité. Je crois qu'il y a deux espèces de droits. Il y a les droits par rapport à la finalité et les droits par rapport au tout et l'intégrité. Vous avez un droit à l'intégrité. Vous avez un droit par rapport à la finalité. Et le droit que vous avez, par exemple, à l'égard d'une marchandise que vous avez acquise et qu'un autre désire vous acheter, vous voyez, il y a un certain droit. Ça coûte tant, la valeur. à cause de votre travail, qui vous a donné ce droit. Ce que vous avez acquis par votre travail, vous avez un droit dessus, un droit de propriétaire. Bon. Alors, la question ici, posée, vous comprenez, j'ai envie d'élucider le problème des pacifistes, hein, en disant que c'est un problème politique. C'est un problème politique, ce n'est pas un problème d'éthique personnelle. Ça ne s'oppose pas au point de vue éthique personnelle. Vous avez parlé dernière fois du droit naturel qu'a l'homme à vivre. Tout à fait. Dans quelle mesure ce droit disparaît par l'ennemi en cas de guerre? Mais j'ai le droit, c'est le droit de légitime défense. C'est un droit, le droit de légitime défense. J'ai le droit de défendre ma vie. J'ai le droit de défendre ma vie, la vie de ma famille, de mes enfants et de mon épouse. On vient attaquer dans une maison, ce qui arrive aujourd'hui assez souvent, n'est-ce pas ? Eh bien, vous avez le droit de défendre vos enfants, vous avez le droit de défendre votre épouse. Et vous avez le droit de défendre vous-même. Alors, autant que possible, vous ne devez pas tuer. Vous devez mettre l'autre dans un état dans lequel il est inefficace. Vous n'avez pas le droit de... Normalement, c'est ça. Le droit de légitime défense, c'est de, donc de le mettre dans un état de... Alors, le mettre par terre, et puis l'abattre par terre, et puis là, très bien. Mais pas le tuer. Si vous devez vous défendre et que dans la défense vous le tuez, évidemment, ça fait partie de cette légitime défense. Il y a un droit de légitime défense. Eh bien, je crois de la guerre, c'est la même chose. C'est le droit de légitime défense par rapport à la famille, par rapport à la patrie. C'est un droit de légitime défense. Vous n'avez pas le droit, si vous êtes responsable à l'égard d'une épouse et vis-à-vis d'enfants. Pour le célibataire, c'est différent. Pour le célibataire, c'est très différent. Je parle du père de famille. Il n'a pas le droit de laisser envahir ses enfants et que ses enfants soient emmenés. Il n'a pas le droit de faire ça. Il est responsable de ses enfants. Ça, c'est très important de le comprendre. Mais ça fait partie du droit. Alors, c'est un droit au niveau communautaire, là. On m'a dit l'autre jour, c'était quand j'étais pour Jean Vanier, l'année dernière, il y a eu 300 petites filles de 3 ans à 10 ans qui ont été volées en Italie. Et c'est tout à fait nouveau, ça n'existait pas avant. Donc on n'a eu aucun signe de vie et de trace. 300. Et la personne qui m'a dit ça, elle avait le matin dit, dans notre école, il y a une petite fille qui a disparu. Et il y a des chances qu'on ne la retrouve pas. Quand un État est en face de cela, quand même, hein, quand je vois ça, est-ce que ce n'est pas le devoir le plus rigoureux de l'État de défendre la famille? Et donc de prendre les moyens qu'il faut. J'ai pas le droit de dire, bon, très bien, c'est un fait. Mais non. On a un devoir de défendre des enfants. Comme on a un devoir, exactement comme la mère qui attend un enfant, a un devoir vis-à-vis de ce petit enfant, il n'a pas le droit de tuer, il ne peut pas réagir. Donc c'est un devoir. Le droit de légitime défense, c'est le droit de la famille de défendre la famille. Alors, vous comprenez qu'à ce moment-là, le point de vue pacifiste, très bien, tout à fait d'accord. Mais attention, vous allez laisser des choses encore beaucoup plus graves. Parce que vous allez empêcher à la famille de pouvoir s'épanouir normalement. Et le droit de l'enfant, c'est quelque chose de plus sacré que n'importe quoi. Parce que plus vous êtes en face d'un petit, Plus vous êtes en face d'un misérable, plus vous êtes en face de quelqu'un qui est incapable de défendre, plus vous devez défendre. C'est votre devoir extrême au point de vue justice. Alors il faut des moyens pour le défendre. Oui. C'est ce qui implique l'armée. C'est pour défendre un patrimoine, défendre le point de vue d'une éducation qui est normale. Une éducation qui doit être une éducation au choix des parents, et donc une éducation, si ses parents sont chrétiens, chrétienne. On doit défendre l'école libre. C'est un devoir nécessaire, il faut le rappeler, parce que ça touche directement à la famille. Que la famille ne puisse pas élever ses enfants dans le sens où elle le veut, eh bien, c'est quelque chose qui va directement contre la justice. Il y a un devoir de défendre certaines choses qui sont essentielles à la famille. Alors, ça, il faut le comprendre, vous voyez, parce que la passivité, pour la passivité, ce n'est pas évangélique. Hein. Ce n'est pas évangélique. Le Seigneur nous dit, quand on te donne une claque sur une joue, présente l'autre joue, Jésus n'a pas fait ça quand il était devant les grands prêtres. Moi, ça m'a toujours beaucoup frappé. Jésus n'a pas fait ça du tout. Et il a dit, de quel droit tu fais ça? Est-ce que j'ai mal parlé? Si j'ai mal parlé, dis-le-moi. Oui. Alors, on prend telle phrase de l'Évangile et on l'applique matériellement. Il y a autre chose, le royaume de Dieu est au violent. Il y a une espèce de lutte constante pour acquérir le point de vue de ce qui est légitime. Alors, c'est très complexe, vous voyez, c'est là où la prudence joue. Parce que c'est ça que la prudence fait comprendre les moyens. Alors, je comprends très bien, et on comprend très bien que on est lancé actuellement dans quelque chose d'invraisemblable, c'est ce point de vue de cette course à l'armement. C'est inhumain, ça il faut savoir le dire et comprendre que c'est inhumain, c'est d'avoir des armes qui sont de plus en plus dangereuses, de plus en plus terribles, de plus en plus destructives. Bon, en face de ça, comment pouvons-nous lutter? Est-ce qu'on lutte en disant, moi je ne fais rien, je vais avoir des mains pures? À ce moment-là, vous vous laissez écraser, puis tout le reste s'écrasera, tout le monde écrasera. Alors, vous voulez avoir des mains pures, très bien, mais nous faisons partie de notre monde d'aujourd'hui. Ça, c'est un fait. Et on est tous solidaires dans ce monde. Et donc, on doit essayer de voir où, de fait, le point de vue de la justice est le plus parfait. En sachant très bien que... Alors, c'est pour ça que c'est très complexe. C'est très complexe. Avoir des armes qui permettent à l'adversaire de ne pas attaquer, avoir des armes qui permettent cela et qui maintiennent, c'est normal. On est obligé d'en avoir. Parce qu'autrement... Surtout quand on sait que l'adversaire, au point de vue moral, n'est pas de grande tenue. N'est-ce pas ? Alors, à ce moment-là, on fait attention. Parce qu'il faut faire attention. S'il était de grande tenue, alors on pourrait. S'il avait une dignité humaine. Mais quand on sait qu'il n'en a pas, on est obligé. Parce que le seul argument qu'il prend, c'est ça. Vous vous souvenez, c'était quand, de temps en temps, Giscard avait quand même de temps en temps des réactions qui pouvaient être humaines. Hein. Pas toujours, mais de temps en temps. Mais là, il a eu une réaction humaine qui était grande et qui était belle. C'est quand il avait été en Russie. Or, j'ai su la chose, puisque le général Davout l'accompagnait. Et c'est lui qui m'a raconté ça au terme. Il a eu un premier geste complètement stupide. Vous savez, tout le monde en a dit, de mettre une gerbe sur le tombeau de Lénine. Il est le premier à faire ça. Et le général Davout n'avait pas du tout envie de l'accompagner là. Il suppliait la Providence et la Vierge Marie de faire qu'il soit l'accompagné. Il était bien obligé. Il lui demandait de l'accompagner. Puis il valait mieux que ce soit lui qu'un autre. Alors, heureusement, la Providence est très bien arrangée. Il était obligé de partir. Et il n'a pas été là à ce moment-là. Donc il m'a dit, ça, c'est... Parce que l'accompagner pour ça, c'est s'associer, et je ne m'associe pas. Je ne suis pas d'accord. Bon. Et à la fin, quand il est parti, on a parlé du désarmement. Normalement, en partant, c'était le dernier qui parlait. Et c'était pas, je sais plus, c'était en Russie. Ou Brejnev. C'était Brejnev qui avait parlé. C'est pas lui qui parlait en dernier lieu. Giscard a dit, le désarmement, très bien, nous le ferons le jour où vous aurez supprimé votre idéologie qui conduit nécessairement à la guerre et à la domination. Et donc la première chose que vous devez faire, c'est d'abdiquer votre idéologie. Alors, Brejnev, qui d'habitude aurait dû se taire selon les mœurs diplomatiques, puisque c'était le dernier qui devait parler, Brejnev a relevé. Nous demandons le désarmement, mais jamais nous abdiquerons notre idéologie. Il avait dit quelque chose de très juste et d'intelligent. On parle tout le temps de désarmement, mais il y a quelque chose de plus profond. C'est l'idéologie de domination. Alors, l'idéologie de domination fait que nécessairement, si on est en face de quelqu'un qui veut à tout prix dominer, on est obligé. On est obligé. On ne peut pas faire autrement. Moralement parlant et politiquement parlant, on ne peut pas faire autrement. Autrement, on abdique. Oui. Alors, on peut agir chrétiennement, individuellement, mais quand on est responsable de sa maison, quand on est responsable d'un foyer, quand on est responsable d'une culture et d'une liberté humaine, on n'a pas le droit. On doit prendre des moyens qui soient des vrais moyens efficaces au point de vue politique. Oui. Et ce n'est pas aller contraire à l'Évangile. Parce que l'Évangile nous demande de garder cette responsabilité. Mais il ne faut pas idéaliser, hein, parce que ça serait l'illuminisme, d'oublier le point de vue des différents. Alors, il y a une question, je suis tout à fait d'accord, il ne faut pas aller trop vite, mais le mouvement pacifiste, on connaît trop bien ce que ça veut dire. Hein. On sait très bien par qui il est mené. Alors, une fois qu'on sait par qui il est mené, c'est très facile. Et il suffit d'y réfléchir. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez? Et là, je crois que Giscard avait très bien vu, il avait très bien saisi. L'armement est une conséquence. Il faut une volonté de paix. Et une volonté de paix est d'ordre de l'agir. Tandis que l'armement est d'ordre du facere. Vous voyez? Encore les mêmes distinctions que nous retrouvons. Et là, quand on confond les deux, on ne voit plus du tout. La volonté de paix, c'est de l'agir. Si vous êtes en face de quelqu'un qui veut avoir une volonté de paix et que vous-même, vous avez une volonté de paix, très bien, désarmons. C'est très, très bien. Mais quand on est en face de quelqu'un qui n'a pas cette volonté de paix, en raison de l'idéologie qu'il a, on a un devoir, parce qu'on sait qu'il a cette idéologie, un devoir de pouvoir lui résister. Autrement, ce serait une abdication. Et l'abdication n'est jamais chrétienne. Abdiquer son autorité n'est jamais chrétien. Pas l'oublier. Quand on a une autorité, on doit l'exercer. On l'exerce de diverses manières, mais on doit l'exercer. Or, un chef d'État a une autorité, il faut bien, par rapport à l'État, et par rapport au bien commun de ce que représente un pays. Donc, tout ce que représente le patrimoine, et surtout le patrimoine spirituel. Donc, restons là au point de vue de la justice en comprenant que le jus est une chose très difficile à préciser. Il faut donc essayer de le préciser de plus en plus. Passons tout de suite, s'il reste encore une minute. Hein, vous avez votre trop. Passons tout de suite à la vertu de force. N'est-ce pas? Celle-là, elle peut passer au-dessus des bras. À la vertu de force pour comprendre comment la vertu de force. Ainsi que la vertu de tempérance, parce que c'est les deux dernières vertus de tempérance, sont toutes les deux des vertus qui vont s'enraciner dans notre affectivité sensible, c'est-à-dire dans l'irascible et le concupiscible. L'irascible demande d'être transformé. L'irascible demande d'être transformé par la vertu de force. Il faut bien comprendre que l'irascible, en tant qu'il est lié à l'esprit, à la raison, les racines participent de la raison, du raisonnement. Ils participent, c'est très difficile à bien préciser. Mon irascible d'homme n'est pas l'irascible du chien ou du taureau. Pas le même irascible. Mon irascible d'homme demande d'être un irascible d'homme. Et il demande de devenir humain. J'ai une manière humaine de me mettre en colère et j'ai une manière animale de me mettre en colère. J'ai une manière divine de me mettre en colère, j'ai une manière humaine de me mettre en colère et j'ai une manière animale de me mettre en colère. Me mettre en colère d'une manière animale, c'est justement me mettre en colère tout de suite, dès que n'importe quel qui contredit ce que je dis. Alors ça, on se met en colère. Immédiatement. Ça, c'est une manière animale. Parce que c'est pas prudentiel. La manière humaine d'être en colère, c'est la prudence qui intervient. Et la manière divine, c'est le don de force.
Avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles.